Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Dis-moi comment tu considères les animaux, je te dirai qui tu es. Depuis ces dernières années, avec les vidéos de l'association L214 en France, la montée du mouvement vegan à l'échelle mondiale, la création de partis animalistes, la disparition d'une partie de la biodiversité, le sujet a envahi notre quotidien sous différentes formes. Des animaux domestiques que l'on chérit à ceux que l'on retrouve dans nos assiettes, des espèces que l'on observe dans des parcs, des aquariums ou autres lieux de captivité à ceux que l'on déteste parce qu'ils nous font peur ou sont d'apparence peu avantageuses, notre regard varie et traduit une grande subjectivité de notre part. Mais entre rationnel et irrationnel, notre rapport pluriel aux animaux montre surtout un manque de connaissances. Avec nous aujourd'hui, François Moutou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur vétérinaire, épidémiologiste à l'ANSES, naturaliste, membre de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères et membre du comité d'éthique de l'INSERM.
Exact.
Auteur du livre « Et si on pensait aux animaux ?», un livre publié aux éditions du Pommier. Ensemble, donc, nous allons questionner nos relations complexes avec les animaux, du chien au moustique, de la morue à l'éléphant, en passant par l'ours blanc. Et on va porter ce regard, cet autre regard, de façon plus juste peut-être, sur ces espèces avec lesquelles nous partageons la planète. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons Mathilde Himer, cofondatrice d'associations d'étudiants et de jeunes pour le climat, et co-coordinatrice de la campagne On est prêt. Elle sera accompagnée de Camille, étudiante en master géographie environnementale à l'Université Paris 4. Camille, engagée depuis quelques années dans des collectifs et le mouvement Youth for Climate. Avec elle, nous décrypterons les attentes des Français en matière de transition écologique, sociale et démocratique suite aux dernières manifestations, mais surtout suite au sondage BVA réalisé sur ce sujet à la demande d'ONG environnementale. Bienvenue à tous dans notre émission, en partenariat toujours avec la rédaction des pages Planète Science du Monde, préparée par Anaï Morales, toujours avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka, avec aux manettes aujourd'hui Clément Daté. François Moutou, on entend des animaux que vous connaissez bien.
Le cri du gibbon le matin dans la grande forêt en Asie du Sud-Est, ça, c'est un cri étonnant. En général, c'est la femelle qui commence et le mâle va répondre. Il y a un espèce de duo et c'est comme ça qu'ils commencent leur journée. J'ai un souvenir à Bornéo dans un très très grand arbre impressionnant, mais un vrai monument. Le couple qui a chanté son duo du matin. Et puis quand c'était fini, ils sont redescendus vers le sommet des arbres qui était beaucoup plus bas et ils se sont carrément laissés tomber, mais de plusieurs, je sais pas, 10 mètres peut-être, avant de se récupérer sur les branches en dessous pour repartir, vivre leur vie dans la forêt. Mais c'était impressionnant. On se disait, ils sont fous, ils se jettent dans le vide. Ils se sont rattrapés avec leurs grands bras, ils sont partis dans la forêt. C'était très, très impressionnant.
Et vous avez éprouvé ce besoin, vous, François Moutou, un vétérinaire, d'aller au contact de certains de ces animaux qu'on ne voit pas forcément, ou même dans une carrière. Ces animaux, aller les voir pour mieux les connaître, mieux les protéger?
Oui, alors on peut commencer chez soi, c'est pas forcément. J'ai eu la chance de pouvoir voyager, mais on peut très bien faire des observations là où on habite. On a toujours quelque chose à regarder, il faut juste y penser. Et si on prend le temps, mais il faut un peu le temps, de regarder un couple de tourterelles, de regarder un écureuil, de regarder n'importe quel petit animal dans son jardin, dans la forêt, quand on marche, là où il en reste, évidemment, on apprend toujours quelque chose. Et si on est un peu passif par rapport à lui, on le laisse vivre sa vie, on ne va pas interférer, en tout cas le moins possible, on découvre des choses et on se rend compte que ces animaux sont tout à fait surprenants. Et j'ai l'impression que trop souvent, on les connaît pas. Il y a des millions d'espèces qui sont encore à découvrir. Alors souvent, ce sont des insectes ou des petits animaux, mais pourquoi les ignorer? Et en fait, on ne prend pas le temps de les regarder.
On a perdu le contact, concrètement?
On a beaucoup perdu le contact et on a remplacé ça par des idées, par des a priori. Alors, vous avez cité beaucoup d'associations ou de démarches en ouverture. Ce sont des gens qui font des choses tout à fait intéressantes, mais si on regarde un petit peu, ce sont des actions dans un domaine, alors que la biodiversité animale, mais il y a aussi végétale à côté, est beaucoup plus vaste. Et je trouve que parfois, Alors, c'est pas forcément facile. On devrait être capable d'aller voir aussi à côté ce qui se passe. Et il y a vraiment deux grands types d'animaux autour de nous. Et il y a des discours qui sont très disproportionnés si on prend l'un ou si on prend l'autre. Les animaux domestiques ont été créés par l'espèce humaine. C'est nous qui les avons inventés à partir d'espèces sauvages que parfois nous avons par ailleurs exterminées.
Oui, comme l'aurochs, par exemple.
Par exemple, l'ancêtre de tous les bovins, et il n'y en a plus depuis le XVIIe siècle, il n'y en a plus un.
Que l'homme a fait revivre quelque part.
Alors, on a essayé, mais ce sont des races de vaches qu'on a sélectionnées, resélectionnées, désélectionnées, dites comme vous voulez, avec des critères parfois intéressants, parfois plus subjectifs. Et le paradoxe, c'est qu'on n'a pas d'image de référence. Alors on a des gravures anciennes, on ne sait pas qui a copié sur quoi. Souvent les gravures sont des copies de choses plus anciennes et qui peuvent être un peu déformées par rapport à l'original. Donc on n'a aucune référence objective pour dire c'était vraiment comme ça, cet aurochs. Et donc à côté de ces animaux domestiques qui sont à nous, qu'on a vraiment créés, il reste toute la faune sauvage. Et là, il y a vraiment des ignorances terribles, alors que ce sont des animaux non seulement intéressants, mais sans doute parfois qui jouent un rôle dans les écosystèmes. Et à force de retirer l'une après l'autre de ces espèces, on va sans doute avoir des mauvaises surprises, et peut-être dans pas si longtemps.
Connaître, comprendre, aimer, défendre. C'est votre ligne directrice dans ce livre, celle qui vous permet de montrer l'équilibre à trouver entre le rationnel et l'irrationnel.
Oui, tout à fait, parce que aimer, c'est un joli mot. C'est mieux de s'aimer que de ne pas s'aimer. Mais par rapport aux animaux, c'est très ambigu. Si les gens disent « j'aime les animaux », est-ce que dans leur esprit, ça inclut les moustiques, par exemple ? Alors c'est vrai que quelques-uns vont nous ennuyer, vont nous prendre un peu de sang. Parfois, certains peuvent transmettre des maladies. Mais si on retire les moustiques, il n'y a plus de chauves-souris, il n'y a plus d'hirondelles. Or, qui va dire « je n'aime pas les hirondelles » C'est quand même pas la majorité des personnes. Donc, les moustiques ont leur rôle dans les écosystèmes dans lesquels ils sont présents. Certainement, il y a des endroits où ça nous gêne, mais jusqu'où on peut accepter cette gêne, qui parfois est quand même pas si importante que ça? Comment est-ce qu'on peut, nous, se protéger au niveau individuel des risques sanitaires, sans forcément arroser tout un écosystème de produits dangereux qui, de toute façon, se retrouveront un jour ou l'autre dans notre assiette, dans notre circulation sanguine? Donc, il y a vraiment des enjeux à réfléchir, et au-delà de simplement mon simple bien-être immédiat.
Alors on parlait au début de l'émission de ces animaux aussi qu'on ne voit pas, donc que l'on peut potentiellement oublier et ne pas défendre. Mais il y a d'autres cas finalement, des espèces emblématiques comme le panda, hein, protégées efficacement sans être forcément au contact des êtres humains. Ce n'est pas le cas par contre des éléphants braconnés, exploités ou des rhinocéros. Alors est-ce que pour ces animaux-là spécifiquement, c'est la captivité qui peut les sauver?
Alors je serais plus nuancé, le cas du panda est intéressant. Ils sont tous en Chine. Alors d'un côté, il y a la préservation de l'espace forestier et montagneux où sont ces pandas dans leur forêt de bambou. Et parallèlement, comme c'est un animal assez populaire, ils font des élevages. Il y a des échanges politiques, entre guillemets, entre pays Chine et autres pays du monde, entre parcs zoologiques, pour les montrer. Mais personnellement, je pense que les pandas seront sauvés en Chine dans leur forêt, en liberté, ou pas. Les présentations dans les parcs zoologiques, c'est plutôt de la pédagogie. Éventuellement une source de revenus pour alimenter des programmes de protection en nature, mais c'est pas là qu'on sauvera les pandas. Alors les éléphants, c'est un problème assez compliqué. Par exemple, en 1973, ça fait déjà un certain temps, j'étais déjà né quand même, on a signé une grande convention internationale qui s'appelle la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées par le commerce. Et presque tous les pays du monde ont signé, en tout cas les pays qui hébergent des éléphants ont signé, mais je vous rappelle qu'on n'a pas d'éléphants en France. Or, si en France je dis j'aime les éléphants, c'est très sympa, mais quel est l'impact positif sur les éléphants? Rien du tout. Or, quand on a signé cette convention de 1973, on estime qu'il y avait peut-être 4-5 millions d'éléphants en Afrique. Je prends la population africaine. Aujourd'hui, 2019, il ne reste 400 000 à peine. Alors, on peut dire deux choses. Sans la convention, ça aurait été encore pire. Ou bien, à quoi a servi la convention si on est passé de 4-5 millions à 400 000 à peine? Mais là, c'est parce que ça se passe dans des pays qui sont souverains, évidemment, qui ont des pratiques qui sont les leurs, parce que la convention, elle réglemente le commerce international. Il faut passer une frontière. Au sein d'un pays, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a toujours des pays qui chassent l'éléphant légalement. Et en plus, il y a toute l'instabilité politique. Et le braconnage permet d'alimenter justement ces mouvements révolutionnaires, anti-révolutionnaires, tout ce que vous voulez. L'ivoire étant une denrée qui se vend toujours très très bien en Asie. Pays au pluriel qui ont signé la convention et qui continuent à importer le produit.
Ivoire, corne de rhinocéros, et c'est vrai que cette captivité n'est pas forcément garante d'une survie de l'espèce. Souvenez-vous, en France d'ailleurs, c'était à la réserve de Thoiry, c'était en mars 2017, voici ce qui s'était passé.
Ils sont sains et saufs. Bruno, 5 ans, et Gracie, 37 ans, sont les deux rescapés du massacre de la nuit. Ce matin, la soigneuse des trois rhinocéros blancs du parc de Thoiry a découvert la porte de leur maison fracturée.
Elle rentre dans la maison et donc elle voit un de nos rhinocéros, Vince, qui est le rhinocéros mâle, qui avait 5 ans, rhinocéros blanc, qui était donc par terre avec plusieurs balles dans la tête, avec la corne qui était donc tronçonnée. Ce n'est jamais arrivé en France, jamais arrivé en Europe, donc on est totalement sous le choc.
Avec son millier d'animaux en semi-liberté, le parc de Thoiry pensait être à l'abri des vols. Murs d'enceinte de 3 mètres de haut, vidéosurveillance, personnel sur place la nuit. Les braconniers ont franchi les mailles du filet, car pour eux, le jeu en valait la chandelle.
Il y a beaucoup de monde qui pense que la corne de rhinocéros est un puissant aphrodisiaque ou encore une cure contre le cancer. Du coup, 1 kilo de corne, ça se vend plus de 50 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment purement lucratif.
Et actuellement, il y a une telle pression de l'Asie du Sud-Est pour récupérer de la corne de rhinocéros pour soigner, soi-disant, on ne sait pas quoi d'ailleurs, que même dans les zones protégées, dans les réserves privées qui sont enclos de barbelés avec des systèmes électriques de surveillance, de vidéocaméras, il y a du braconnage. Et clairement, si ça fonctionne encore, ce braconnage, c'est qu'il y a des complicités à tous les niveaux. Et malheureusement, quand on a les bilans côté rhinocéros, ça fait beaucoup de morts. Mais il faut imaginer que côté humain, ça fait aussi des morts. Il y a à la fois des braconniers qui se font tuer par des gardes et des gardes qui se font tuer par des braconniers. C'est pas du tout satisfaisant.
Sur cette question de la préservation d'espèces en danger, on a le sentiment quand même, François Moutou, qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. On pense bien sûr aux dodos, aux thylacines de Tasmanie. Vous avez certainement vous-même des inquiétudes concernant d'autres espèces.
Ah ben, bien sûr. Alors il y a deux choses paradoxales. Si on cite le thylacine et le dodo. Alors, le dodo à l'île Maurice, donc c'était sa seule patrie, il n'y en a plus depuis 3 siècles, à peu près 4 siècles, mais il est présent partout. Et il y a une marque de bière, toutes les boîtes d'allumettes, les chaînes d'hôtels, enfin tout, les restaurants, tout le monde s'appelle le dodo. Donc le paradoxe, c'est que l'animal éteint est devenu presque immortel. Alors s'il faut les éteindre, les animaux, pour les rendre immortels, ce n'est pas complètement satisfaisant. Et le deuxième point, et qui est rarement évoqué, c'est que entre l'époque où on a exterminé le dodo et aujourd'hui, la population humaine a complètement augmenté. Je rappelle qu'actuellement, c'est à peu près 1 milliard d'êtres humains en plus tous les 13 ans. Et mécaniquement, s'il y a plus de monde, il faut plus de place. Alors il y a une phrase célèbre qui dit « quand il y a trop d'éléphants, on tue des éléphants » et qui continue en disant « quand il y a trop d'humains, on tue les éléphants ». Parce que si vous avez un éléphant dans votre potager, forcément, c'est déplaisant. Sauf que si vous avez fait le potager là où était l'éléphant avant, et c'est vous qui êtes venu parce que à côté c'est déjà occupé, parce que vous êtes la génération qui suit, et que vous avez besoin d'espace, et que c'est légitime, vous faites votre potager là où avant il n'y avait rien d'autre que de la nature, entre guillemets, ou en tout cas des zones non cultivées. Et l'éléphant qui passait là tous les jours, ben un jour il fait pas trop la différence, peut-être qu'il trouve que c'est meilleur d'ailleurs, sauf que c'est votre potager. Et donc vous tuez l'éléphant. Si on continue à rajouter 1 milliard d'humains tous les 13 ans, il n'y a aucune solution.
Ah oui, et pour tellement d'espèces en danger aujourd'hui, quand on voit la liste rouge de l'UICN notamment, et puis vous parlez aussi vous-même d'espèces, vous êtes inquiet pour les gibbons qui sont au bord de l'extinction dans toute l'Asie du Sud-Est, le diable de Tasmanie, petit marsupial.
C'est un petit animal tout à fait étonnant qui était présent sur l'ensemble de l'Australie, Tasmanie comprise, et qui est toujours présent en Tasmanie, donc c'est le 7e état de Tasmanie le plus au sud, séparé par la mer du reste de la grande île continent. Et dans les années 90, on a trouvé des animaux avec une maladie tout à fait étonnante, un cancer de la face. Le paradoxe, c'est que d'un côté, c'est devenu un extraordinaire modèle pour la médecine humaine, parce que c'est un type de cancer nouveau, avec une façon de se transmettre par morsure. Les animaux avalent des cellules cancéreuses de leurs collègues diables, parce qu'ils l'ont un peu mâchouillé. Et ces cellules-là sont capables de transmettre la maladie à l'individu qui a mordu. C'est une façon nouvelle de transmettre les cancers. Et donc, il y a toute une recherche fondamentale autour de ce cas-là. Sauf que c'est une recherche qui s'éloigne un petit peu de l'intérêt du diable. Alors, tant mieux pour les humains si on en tire quelque chose. Donc, c'est l'exemple de la recherche médicale à partir de modèles animaux. La seule bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du XXe siècle, on avait prédit qu'il n'y en aurait plus avant 2010, Or, il y en a toujours. On espère que la petite bestiole continuera avec nous, parce que c'est quand même sympa d'avoir un petit diable pas loin, quoi.
Et les baleines, alors, François Moutou, parce que vous êtes allé en Islande, vous avez vécu ça au plus près, et vous aviez là besoin peut-être d'être au contact de ces cétacés incroyables. Enfin, on a une telle méconnaissance déjà de ces espèces marines de l'océan.
Alors, on peut voir des baleines de nos côtes, hein, c'est même assez connu en Méditerranée. Il y a des gens qui organisent des sorties pendant l'été, c'est plus sympa peut-être, il fait meilleur. On peut voir des cachalots, on peut voir des rorquals communs tout près de la côte méditerranéenne, côté plutôt Provence, mais c'est vraiment pas si difficile. Et là, on avait eu la chance en Islande de faire une sortie sur la côte nord au mois de juin, et on est tombé sur deux baleines bleues. Donc c'est le plus grand animal ayant existé sur Terre. Alors on se dispute entre dinosaures, baleines, ver marin qui est très très long, mais un ver marin, même s'il est plus long, il est quand même pas plus gros. Enfin bon, et c'est vraiment des animaux impressionnants. Enfin, c'est extraordinaire de voir ça. Et il y avait deux émotions plus fortes que les autres quand j'ai vu ça. C'est que d'une part, on n'en voit jamais qu'un bout à la fois.
Mmh. Et là, on entend leur chant d'ailleurs. Hein.
Voilà. Alors ça, c'est pas les baleines bleues, c'est plutôt les baleines à bosse, les mégaptères. Mais on ne voit pas le mouvement de la queue. Donc on voit le dos qui glisse et on voit rien qui le propulse. Donc on se demande comment l'animal avance. Et également, ce qui nous gêne un peu peut-être nous primates, en tout cas dans les eaux fraîches de l'Islande, on ne voit pas du tout le regard. Et donc il y a peut-être aussi une petite frustration à côté de l'émotion énorme. Quand vous voyez une baleine bleue, c'est quand même incroyable. Mais quand on les voit en vrai, vraiment, c'est tellement extraordinaire quand on entend le souffle. Par contre, ça, on l'entend. Et on voit la vapeur d'eau qui a fait la condensation de... C'est pas de l'eau qu'elle souffle, bien sûr, hein, c'est la condensation de l'air chaud des poumons qui monte dans l'air frais au-dessus de la mer. Et c'est vraiment extraordinaire d'entendre ça et d'entendre le clapot. Et cette baleine, elle nous avait évidemment vus. Et parfois, elle ressortait, mais à 20 mètres du bateau, elle passait dessous. Enfin voilà, nous, on était contents de les voir.
Vous ne vous sentiez pas en danger, forcément.
Aucune notion de danger dans ces cas-là. C'est juste un plaisir extraordinaire. Mmh. On ne peut pas avoir une seule seconde autre chose qu'une grande émotion et un grand, grand plaisir.
Rappelons des chiffres peut-être que vous donnez dans votre livre, François Moutou. On en trouvait, en 1911, hein, on dénombrait 270 000 à 300 000 baleines bleues, c'est ça ? Aujourd'hui, 10 000 à 25 000.
Elles ont perdu donc plus de 90% de leurs effectifs, avec des conséquences qu'on ne sait pas mesurer. Parce que la notion d'arche de Noé, bon, alors vous en gardez deux, un mâle et une femelle, et vous sauvez toutes les espèces. Ça, c'est vraiment de la mythologie, dans tous les sens du terme. Il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles il faut un effectif minimum, déjà pour que les comportements naturels, par exemple comme celui de la reproduction, qui n'est pas forcément spontané, se mettent en place.
Et puis qui n'est pas celle de l'homme non plus, parce que ces baleines, par exemple, elles vivent entre 150 et 200 ans.
Donc, apparemment, elles vivent assez vieux.
On n'est pas sur les mêmes rythmes non plus
de vie. Non, pas du
tout,
pas du tout, pas du tout. Et en plus, elles ont une façon de vivre qui n'a rien à voir avec la nôtre. Enfin, c'est difficile d'imaginer d'ailleurs comment on vit les baleines, surtout que étudier une baleine échouée, donc morte sur une plage ou sur un bateau baleinier, ça vous donne qu'une information anatomique, éventuellement physiologique, mais pas grand-chose sur l'écologie, sur le comportement. Et donc, avant de faire de l'éthologie de baleines bleues dans leur milieu, il faut vraiment, vraiment avoir des moyens qui vont avec. Mais j'ai des amis qui ont plongé avec des mégaptères et ou des cachalots. Et ce qui les a toujours surpris, c'est que ces animaux certainement les avaient repérés. Et alors, soit les animaux ne voulaient pas qu'on les regarde et c'était pas difficile pour eux de s'en aller, mais s'ils restaient, c'était parce qu'ils le souhaitaient, et il n'y avait jamais un geste dangereux par rapport au plongeur. C'est-à-dire que l'animal savait où était la personne, savait où était sa queue à lui, autant mieux, ou ses nageoires, et tous les mouvements qui étaient faits étaient toujours faits avec une très grande douceur et avec une perception parfaite de l'environnement dans lequel se trouvait l'observateur humain.
Mais face à ces baleines, d'une manière générale, il y a des pays non vertueux. Hein. On peut parler du Japon et de l'Islande.
Mais c'est très très curieux. Donc l'Islande surtout, qui a certainement un environnement difficile, c'est vraiment... les gens en Islande vivent sur un volcan. Quand vous allez un petit peu là-bas, que vous voyez comment ça se passe, vous dites un jour, ça va forcément mal se terminer. Et ils ont été très forts d'un côté pour protéger leurs eaux territoriales. Et c'est l'Islande qui a fait passer la zone d'exclusion économique périphérique à chacun des pays côtiers de quelques 1000 marins à 200 000 marins pour protéger ces pêcheries de morue. Et là-dedans, vous avez une activité alors traditionnelle, mais que veut dire tradition, de chasse à la baleine. Alors ce qui m'a fait plaisir, c'est que de plus en plus de restaurants là-bas affichent « Ici, nous ne savons pas de viande de baleine ». Et le tourisme Alors, à des bons côtés, à des mauvais côtés. Mais là, c'est clairement, par rapport aux touristes, une carte qu'on peut faire jouer, c'est-à-dire que quand on va là-bas, on n'a pas forcément tous envie de manger de la baleine. C'est pas forcément ça qui motive les visiteurs. Il y a des gens qui l'ont compris et ça peut faire pencher les choses dans le bon sens. Côté Japon, c'est assez compliqué. Alors, je connais pas du tout ce pays. Alors, il y a aussi peut-être des choses à comprendre localement. Ce qui est assez étonnant, c'est que le Japon vient de quitter la Convention baleinière internationale qui, de fait, n'imposait rien. Mais du coup, c'est pas forcément une mauvaise chose pour les baleines, parce que ils ne pourront plus exploiter l'argument de chasse scientifique qui était possible dans le cadre de la Convention, là qui ne le sera plus, et qui va les limiter à pêcher ou chasser, on ne sait jamais quel mot employer, uniquement dans leur zone territoriale, qui est quand même beaucoup plus étroite que tout l'océan Antarctique qui était ouvert à cette possibilité-là. Donc peut-être qu'à terme, globalement, les cétacés pourraient... avoir, en tout cas. C'est une hypothèse que certains ont défendue, que je trouve intéressante, mais il faut un petit peu de temps pour l'apprécier.
François Moutou, vous posez aussi deux questions dans votre livre et qui interpellent forcément, je ne suis pas sûre que nous ayons les réponses. Vous posez ces questions-là. Les derniers individus d'une population en danger savent-ils qu'ils sont les derniers? Et cela change-t-il leur comportement?
Oui, ça c'est quelque chose que je me suis posé plusieurs fois. On voit un animal, malheureusement il ne peut plus en avoir beaucoup, et quand on le regarde, est-ce qu'il peut avoir la conscience qu'ils sont de moins en moins nombreux? Alors on a tous lu Le Dernier des Mohicans ou des histoires dramatiques de populations humaines qui ont disparu, et souvent d'ailleurs parce que les voisins n'ont pas été très gentils avec eux, n'ont pas toujours été très chaleureux avec eux, et avec sans doute la notion d'être le dernier de son type, de sa race, de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, le mot race n'est pas toujours bienvenu quand on parle d'humain, même pas du tout. Mais est-ce que les animaux ont cette conscience-là, ou est-ce que leur perception, c'est vraiment leur environnement immédiat? S'il y a un copain à côté, une femelle, un mâle, un jeune, ça suffit? Je ne sais pas, parce que on se rend compte de plus en plus que les animaux savent communiquer. Alors, pareil, je dis animaux, c'est pas forcément vrai des vers de terre jusqu'aux éléphants, mais ont des systèmes de communication à beaucoup plus longue distance qu'on imaginait, beaucoup plus subtils. Et sans doute que l'absence de messages lointains est sans doute quelque chose qui peut être perçu comme une absence. Et alors, comment réagissent-ils par rapport à ça? J'avoue que là, c'est un grand mystère pour moi.
Et vous évoquez aussi le drame d'espèces à la mauvaise réputation. Alors, on a évoqué tout à l'heure un petit peu les moustiques, vous parlez des rats, du rat taupe notamment, avant de partir sur le cas de ces espèces qui pâtissent, bien sûr, soit de leur forme ou faciès, pas toujours évident ou mignon, comme on aimerait les voir. Et puis, et donc, vous nous expliquez, bien sûr, ce qu'ils endurent. Je vous propose d'écouter le cas du rat taupe. Hein. Il a fait l'objet d'un reportage qui a été diffusé sur France 3 le 22 avril 2017.
Le rat taupe n'a pas fini de fasciner les scientifiques. Ce petit mammifère originaire d'Afrique de l'Est intrigue depuis des siècles pour son incroyable résistance.
Il résiste au cancer, il vit jusqu'à 30 ans, c'est 10 fois plus qu'un rat lambda. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une colonie peut contenir jusqu'à 300 individus. Ils utilisent tout l'oxygène et surproduisent du gaz carbonique. Et ils ne meurent pas, alors que ce serait mortel pour n'importe quel être vivant.
C'est le dernier super-pouvoir découvert par les chercheurs. L'animal peut survivre 18 minutes sans oxygène grâce à un métabolisme de secours.
Le rat taupe libère du fructose dans le sang et les cellules du cœur et du cerveau sont remplies de pompes à fructose ou d'enzymes qui peuvent métaboliser le fructose. C'est un métabolisme propre aux végétaux. On n'a jamais vu ça chez d'autres mammifères.
En comprenant comment le rat taupe active ce processus biologique, les chercheurs espèrent mettre au point de nouveaux traitements pour les victimes de crises cardiaques ou d'AVC.
François Moutou, le rat taupe fait partie de ces espèces à la mauvaise réputation. Et là, il faut qu'on change notre regard.
Alors en fait, il y a plusieurs types de rat taupe, plusieurs modèles. Celui-là, c'est le rat taupe nu, qui ressemble à rien du tout. Alors il y a des gens qui disent, on dirait un peu une pomme de terre fripée, rose, avec quatre petites pattes, une petite queue derrière et un drôle de nez à l'avant.
Et des grandes dents.
Et donc ça vit dans des endroits extrêmement désertiques. Et ce qui n'a pas été dit, c'est que c'était une surprise aussi, leur mode de vie, leur société est comme celle des abeilles. Vous avez une femelle qui se reproduit, quelques mâles à côté d'elle qui sont les papas, et tout le reste, ce sont des ouvriers qui ne se reproduisent pas, qui font le boulot. Et ça, c'est quelque chose chez les mammifères qu'on n'avait jamais vu. On pensait que c'était réservé aux termites, aux fourmis, aux abeilles. Eh bien non, les rataupes nues font pareil. Et alors en Afrique, il y a toute une famille de rataupes. Il y a même deux familles zoologiques différentes. Et moi, j'ai eu la chance d'en voir un, c'est le rataupe géant qui habite les hauts plateaux d'Éthiopie. Alors ça fait à peu près un kilo, alors que celui-là est beaucoup plus petit. Et c'est la proie préférée d'un carnivore qui va disparaître bientôt. C'est le loup d'Éthiopie. C'est un grand renard ou un petit canidé. Enfin, c'est plus petit que le loup d'Asie ou d'Amérique du Nord. Assez rouge, assez joli. Et c'est son repas portion. C'est le rataupe géant et qui a une tête incroyable avec des yeux comme un hippopotame. Enfin, c'est vraiment, il sort normalement de son terrier et il rentre toujours en marche arrière. Enfin, c'est vraiment des animaux incroyables. Mais il faut les regarder. Mais alors, si on prend l'exemple des animaux qui sont pas toujours bien perçus, pensez au crapaud.
Oui.
Mais, pensez au crapaud, si vous le prenez, si vous l'embrassez, et si jamais il devient un prince charmant, ben, il faut essayer, ça ne coûte pas grand-chose.
Vous croyez, je ne suis pas très tentée. Hein.
Et donc, il faut tenter, il faut laisser la chance au crapaud de devenir un prince charmant, il faut essayer.
Au moins, à travers notre regard, peut-être, vous dire que j'irai l'embrasser, ce n'est pas sûr. François Moutou, et puis vous nous parlez, bien sûr, des rats, hein, la morue aussi.
Mais la morue, alors si on dit j'aime les poissons, j'aime les morues, on vous dit mais en brandade ou en cabillaud, bah, attendez, la morue ça a nourri des millions de personnes, encore un peu maintenant. C'est ce qui a permis de découvrir l'Amérique bien avant Christophe Colomb, sauf que bon, les Basques et les pêcheurs de l'Atlantique européens n'avaient pas envie de donner leur bon coin de pêche au reste du monde, donc ils ont rien dit. En plus à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, donc c'était pas forcément plus mal. Sauf qu'au XIXe siècle, on disait, et dans des congrès scientifiques, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les activités humaines ne pourront jamais épuiser les réserves de ces poissons, tellement leur capacité de reproduction est importante. Et en moins d'un demi-siècle, on avait ratiboisé une grande partie de ces bancs. Du côté de Terre-Neuve, la pêche a très très timidement repris, mais on a complètement modifié l'écosystème. Alors, s'y ajoute le fait qu'effectivement la mer commence à changer de température, l'acidification des océans joue aussi un rôle, et là c'est vraiment typiquement le cas d'une espèce où manifestement, pour que tous les comportements dont la reproduction se fasse, il faut des grandes quantités d'individus. Et de plusieurs générations, alors je ne sais pas si les plus jeunes regardent comment font les plus âgés, mais quand on a commencé à s'intéresser aux poissons, en tant qu'espèce biologique, en tant que comportement, c'est parce que les pêcheries s'effondraient. Et c'était déjà des conditions particulières, puisqu'on avait laissé passer l'époque où il y avait des populations à peu près normales, avec des comportements à peu près normaux. Et maintenant, alors que des quantités de personnes sur la planète se nourrissaient de cette espèce, on a éliminé des potentiels alimentaires, alors que la population continue à croître, comme déjà évoqué, et qu'on est parti pour faire la même chose avec les autres poissons les uns après les autres, puisque nos méthodes de pêche continuent à augmenter, la puissance des bateaux continue à croître, la profondeur à laquelle on peut aller continue à descendre, et là on tombe sur des espèces dont le cycle de vie, c'est pas quelques années, c'est quelques décennies. Et donc là, on aura vite réglé le problème de la pêche dans les décennies qui viennent.
Donc c'est le message que vous nous passez aussi, François Moutou, à travers votre livre, c'est vraiment de repenser aussi, non seulement notre regard, hein, mais notre façon de vivre en société, de consommer aussi.
Et de partager cette planète ensemble, mais pas uniquement entre humains. Si vous prenez les conclusions de tous les grands colloques qui ont lieu, comme la COP21 dont on est si fier à Paris il y a quelques années, il n'y avait pas un mot sur une autre espèce que Homo sapiens. Mais est-il sapiens quand il oublie les autres ?
François Moutou, faites-nous partager votre choix musical.
Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien la musique américaine, entre autres la musique noire, le blues et tout ce qui a suivi. Et par hasard, plusieurs fois, j'ai réalisé que certaines des chansons que j'aimais bien au niveau musical étaient en fait des messages très forts de la communauté noire américaine par rapport à leur histoire, par rapport à leurs origines et par rapport au quotidien dans lequel vit cette société dans le grand pays États-Unis. Et donc, j'ai découvert par exemple que lors de l'investiture de Barack Obama, on avait joué de la musique que par ailleurs j'écoutais, parce que c'était des musiques symboliques qui avaient été écrites, par exemple, après l'assassinat de Martin Luther King, et qui étaient des chansons d'espoir, et en même temps qui s'appuyaient sur des choses tristes. Et si on n'est toujours pas capable, en 2019, dans un seul pays, de vivre entre communautés, alors c'est sûr que l'histoire, elle est compliquée, et qu'il y a des gens qui ont profité mieux que d'autres, il y a des histoires dramatiques, les anciens esclaves qui se sont retrouvés dans un continent qui n'était pas du tout le leur, alors qu'inversement, bouleversement. Les indigènes ont été un petit peu éliminés ou complètement éliminés par les envahisseurs. Et on continue malgré tout ça, malgré le fait que l'on sache. Et le pire, c'est qu'on sait quand même. C'est pas des choses qu'on découvre, on le sait. C'est écrit, c'est dit et c'est même chanté. Et donc du coup, cette musique, elle a une autre profondeur quand on pense un tout petit peu à cette histoire associée.
Donc elle porte le vivre ensemble et vous nous proposez donc d'écouter...
Taj Mahal, New Strange Blues.
Said I feel like a stranger, like a stranger in my own hometown. Yes, I'm like a stranger, a stranger in my own hometown. Some folks I've known since my childhood, they don't seem to want me. Came home with good intentions about 5 or 6 years ago. I came home with good intentions about 5 or 6 years ago. But my hometown won't accept me. I just don't feel welcome there no more.
De cause à effet, c'est la suite de notre émission sur France Culture, consacrée aujourd'hui à notre rapport aux animaux, rapport rationnel et irrationnel, un rapport pluriel qui montre surtout un manque de connaissances et qui voit l'homme poursuivre les erreurs du passé. Avec nous, François Moutou, docteur vétérinaire, épidémiologiste à l'ANSES, membre de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Il est également membre du comité d'éthique de l'INSERM et auteur du livre « Et si on pensait aux animaux ?», livre publié aux éditions du Pommier. Mais avant de reprendre ensemble cette immersion dans le monde animal, François Moutou, bien place à la revue d'information environnement de la semaine. Et parmi les nouvelles de la semaine, on apprend que la réserve de Scandola en Corse serait en grave danger en raison de la surfréquentation touristique. 9 associations corses de défense de l'environnement ont écrit au ministre de la Transition écologique, François de Rugy, pour demander des mesures d'urgence dès l'été 2019, dont une zone d'interdiction d'accès pour sauver la réserve classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tout en raison, on peut l'imaginer, du bruit, des perturbations générées par les touristes et les bateaux, la biodiversité s'effondre et des espèces ne parviennent plus à se reproduire quand d'autres désertent carrément les lieux, comme les balbuzards pêcheurs. Une pétition baptisée Sauvons Scandola et signée par plus de 27 000 personnes au 1er mars dernier accompagne la lettre du ministre. C'est à découvrir sur le site de l'AFP et sur le site du Monde. Aux Philippines, une baleine de cuvier est morte cette semaine après s'être échouée à Mabini, dans la province méridionale du Val de Compostelle. Le cétacé, long de 4,70 m, était affamé et déshydraté et ce n'est pas moins de 40 kg de plastique que l'on a retrouvé dans son estomac. L'archipel est accusé d'être l'un des plus grands pollueurs des mers en raison de l'usage généralisé de produits en plastique jetable. Une pollution responsable de la mort régulière de baleines, de tortues, de cachalots et autres espèces sauvages. Qui remporte la palme du moins de notre sélection cette semaine? Le Kremlin, qui traîne à régler le sort de 11 orques et 87 belugas capturés dans l'extrême-orient russe pour être vendus à la Chine et ils sont pour l'heure enfermés dans des enclos près de Vladivostok. Or, cette pêche est interdite depuis 1982 et depuis fin décembre 2018, l'affaire fait grand bruit, mobilisant écologistes du monde entier et des personnalités comme Leonardo DiCaprio ou encore Pamela Anderson. C'est à lire sur lemonde.fr l'article d'Isabelle Mandreau. Et le plus de la semaine revient à la Journée internationale de la forêt, et oui, qui suscite de nombreuses actions en faveur des arbres et offre des événements, des spectacles, des concerts, des initiatives à vivre et à découvrir et qui se prolongent bien sûr ces jours prochains. Et vous pouvez retrouver la liste de toutes ces initiatives sur le site de l'émission.
France Culture, de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
François Moutou, une réaction peut-être ?
Eh bien, c'est toujours des histoires un peu tristes. Alors, ce tourisme qui parfois peut aider les situations et parfois être une source de problèmes. C'est vrai que les balbuzards pêcheurs, ça fait des années que maintenant ils se reproduisent presque plus en Corse, parce que les bateaux vont beaucoup trop près de l'endroit où sont posés les nids et les oiseaux sont dérangés tout le temps. Ils s'en vont, les goélands peuvent en profiter pour venir manger les œufs. Et il y a des situations où vraiment, si c'est pas encadré, si c'est pas raisonné, si c'est pas réfléchi, si c'est juste du commerce, c'est très négatif. Parfois, inversement, ça peut aider comme la consommation ou la non-consommation de viande de baleine en Islande éventuellement.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les lois de protection ne suffisent pas à préserver les espèces ?
Mais il faut que les gens soient un peu responsables aussi, et surtout ceux qui encadrent. Alors on peut changer les lois, mais si personne ne les respecte et si on sait que personne ne fera en sorte qu'elles soient respectées, la France dans le domaine a des textes de loi. Et parfois, c'est le gouvernement français qui, le premier, ne les respecte pas. Alors, je vais pas revenir sur des histoires un peu désagréables du début de l'année, mais la chasse aux oies en février, ça fait 11 fois que le gouvernement l'autorise et 11 fois que c'est cassé par le Conseil d'État. À quoi on joue ? Et ce qui m'a le plus surpris cette année, je souhaite le dire, c'est que les arguments développés par le gouvernement pour justifier le projet d'arrêté étaient faux. C'est-à-dire que maintenant, on voit notre gouvernement détourner des rapports scientifiques pour arriver à une conclusion qui n'est pas tenable, mais il a détourné des informations scientifiques. Alors, soit c'est le fait du prince, et c'est le fait du prince, soit on fait une fausse démarche scientifique en détournant des informations, mais quand même, où sommes-nous ?
Vous dites que ce n'est pas l'économie qu'il faut appliquer à l'écologie, mais bien l'écologie à l'économie. Ça fait penser à ça, justement, ce que vous dites par rapport au gouvernement. Parce qu'on imagine bien qu'il y a le pouvoir des lobbies, les lobbies et l'économie.
Mais ça, c'est du court terme.
On doit inverser les choses.
Mais évidemment, évidemment, les hommes politiques raisonnent sur le mandat électoral. Sauf que la vie, elle n'est pas fondée sur une durée de temps qui correspond à un mandat électoral. C'est les siècles, c'est les décennies, c'est des échelles de temps beaucoup plus grandes. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, alors évidemment, s'ils veulent se faire réélire et s'ils prennent des positions un peu difficiles, un peu courageuses, ils ne seront pas réélus. Sauf qu'ils auront peut-être sauvé les générations d'après. Alors que là, il peut-être qu'il les condamne.
Merci François Moutou. Votre phrase fétiche, choix littéraire, vos conseils sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr. Et peut-être votre phrase fétiche, on va la livrer quand même, c'est Romain Gary.
Alors elle est extraite de La lettre à l'éléphant, un court texte de 4 pages de Romain Gary, publié dans le Figaro littéraire en 1968, au printemps, et qui dit ceci après tout un développement. « Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami. » Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme. 1968, 4 pages, trouvez-les sur Internet, lisez-les, relisez-les, c'est extraordinaire.
Et donc je cite le titre de votre dernier livre, François Moutou, « Et si on pensait aux animaux ?» que je conseille fortement, il est publié aux éditions du Pommier. Vous restez avec nous, c'est la suite de notre émission avec deux jeunes femmes, actrices du mouvement des jeunes pour le climat, regard croisé sur les attentes des Français, entretien, je le précise, enregistré avant l'acte 19 des Gilets jaunes.
Si j'ai des enfants, je veux qu'ils aient une vie convenable.
J'ai pas envie de plus tard leur raconter comment c'était quand on pouvait voir des animaux en liberté, quand leur dire « Ah, une époque, on pouvait voir des abeilles voler, des papillons, c'était merveilleux. » J'ai envie qu'ils leur montraient ça, de leur vivant, leur montrer, pas les emmener au zoo pour qu'ils puissent voir un minimum d'animaux, en fait.
Bonjour Mathilde Binaire.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice d'associations d'étudiants et de jeunes pour le climat, comme Climates, c'est un think tank international d'étudiants. Il y a le WARN aussi.
We are ready now. D'accord. On est prêt maintenant à changer notre quotidien et à ce que nos décideurs prennent des décisions plus radicales face au changement climatique.
Et vous êtes également co-coordinatrice de la campagne On est prêt. À vos côtés, Camille, bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut préciser pour nos auditeurs que Camille, c'est votre surnom, un pseudo, par principe, je crois.
Voilà, c'est pour garder l'anonymat, ça fait référence à ce qui a été utilisé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est pour ne pas faire ressortir de figures médiatiques parce qu'on cherche à préserver une horizontalité du mouvement. Et c'est également pour se protéger personnellement parce qu'on est jeune, on a parfois des gens qui n'ont pas la majorité et voilà, on pense que par rapport aux médias, c'est mieux.
Et vous êtes étudiante en master géographie environnementale à l'Université Paris 4, engagée depuis quelques années dans des collectifs et le mouvement Youth for Climate. Et donc, dans ces collectifs qui vous occupent, il y a le collectif Jeunes du Pacte Finance Climat et Désobéissance Écolo Paris, c'est ça ?
C'est exact.
Alors, vendredi dernier, le 15 mars, c'était la grande manifestation des jeunes qui a rassemblé entre 30 000 et 40 000 jeunes à Paris. On donne comme chiffre 168 000 en France. Dans le monde, environ d'un million de personnes de 123 pays qui ont marché pour le climat dans 2000 villes. Un gros succès, Mathilde Imer, on peut dire.
Un énorme succès, un succès qui était attendu parce qu'on voyait les jeunes d'autres pays se mobiliser et on était un petit peu inquiet en France de voir le mouvement climat finalement prendre de l'ampleur. Et les jeunes qui sont quand même l'acteur par excellence qui fait bouger la société et qui a souvent une lucidité finalement sur ce qu'il convient de faire, qui était un petit peu à la ramasse pour le dire en cours, et qui d'un coup s'est réveillé et a donné vraiment un énorme signal, j'ai envie de dire coup de poing, mais c'est surtout un signal d'espoir en fait, de voir autant de jeunes se mobiliser à la fois dans la rue, mais aussi je trouve avec joie à la fois en termes de slogan et aussi une certaine nouveauté dans les formes de mobilisation où il y a évidemment la marche qui a beaucoup fait parler d'elle, mais on voit aussi des actions de désobéissance civile profondément pacifiste, qui est une forme qui est vraiment poussée par les jeunes aujourd'hui et qui est très intéressante, à mon sens, de suivre de très près.
Et puis des slogans aussi qui font mouche, hein. Il y a toute une inventivité à souligner. Ta planète, tu la préfères bleue ou bien cuite? Nous ne voulons pas être orphelins de terre et de mer. Je suis sûre que les dinosaures pensaient qu'ils avaient du temps. Quand c'est fondu, c'est foutu. Enfin, on sent qu'il y a aussi cette façon d'interpeller par les mots et ces mots qui sont plutôt bien choisis, Camille.
Oui, c'est excellent d'ailleurs toute cette créativité. Moi, je trouve que ça fait rêver. Et c'est vrai que les médias ont vachement mis en avant le côté original et divertissant des slogans des différentes pancartes. Ensuite, ça reste des mots, mais la grande majorité du mouvement, je crois, se rend compte qu'il est temps de passer à l'action désormais, et pas seulement aux mots.
Mathilde Imer, il y a aussi eu la manifestation le lendemain, cette manifestation désormais mensuelle pour la marche du siècle, la marche du climat qui rassemble beaucoup de monde, hein, notamment la semaine dernière 45 000 personnes à Paris et entre 145 000 et 350 000, alors selon les chiffres donnés de part et d'autre en France, donc dans 200 villes. Là aussi, on y retrouve les jeunes impliqués, mais malheureusement, c'est vrai que la semaine dernière, cette manifestation qui était là aussi une réussite, a été occultée, masquée par les actions violentes perpétrées par un millier de casseurs dans la capitale.
Oui, là-dessus, j'aurais deux commentaires. Déjà, un commentaire de joie profonde, c'est que c'est la plus grande marche pour le climat et face à l'effondrement de la biodiversité qu'on a eu aujourd'hui en France. Donc c'est un moment important et on voit bien ce mouvement climat qui, marche après marche, action après action, grandit. Donc c'est, je pense, la première leçon à avoir, c'est de se rendre compte que finalement, c'est plus quelques écolos dans leur coin, mais c'est que massivement, les citoyens sont prêts à des changements plus importants, que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle politique ou économique sur ces questions-là. Et c'est vrai à la fois sur les marches, mais c'est vrai aussi avec la pétition L'Affaire du siècle. Cette pétition n'aurait jamais fait un score de 2 millions, ne serait jamais devenue la plus grosse pétition de France si les citoyens n'étaient pas prêts à de tels changements. Donc on voit ce mouvement grandir et par ailleurs sur le fait que les médias et qu'il y ait eu ces violences, on le regrette. C'est pas du tout, la violence n'est pas quelque chose qu'on prône dans notre mouvement. C'est pas non plus, il nous semble, quelque chose que l'extrême majorité, voire la globalité des Gilets jaunes, prône non plus. On regrette qu'il y ait des black blocs à ces manifestations. On est heureux qu'ils ne soient pas venus polluer notre propre manifestation, qui était a priori leur plan initial. Mais on voit bien que dès qu'il y a du buzz et de la violence, ça marche tout de suite plus qu'un mouvement qui pourtant est en train de dire et de montrer qu'il y a une lame de fond aujourd'hui dans la société et qu'il y a aussi des actes à attendre du côté gouvernemental.
Camille, deux mouvements qui vous semblent se concurrencer sur le terrain médiatique?
Moi, je suis pas tellement pour faire la distinction entre gilets jaunes et écolos. Peut-être pas non plus entre casseurs et gilets jaunes, ni casseurs et écolos, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui gravitent entre les trois mouvements.
Pour aller dans le sens de Camille tout de même, il n'y a pas d'opposition, à mon sens non plus, entre gilets jaunes et écolos. Non, et déjà, il y avait des gilets jaunes qui marchaient avec nous pacifiquement lors de cette marche. Et pas des moindres, François Boulot qui était avec nous pendant toute la marche, qui est quand même une des personnes qu'on entend le plus et que le gouvernement et les acteurs médiatiques ont tendance à prendre comme un porte-parole, même s'il n'en est pas un officiellement, en tout cas pas de l'ensemble du mouvement. Et aussi Priscilla Ludowski qui à la fin est intervenue avec nous. Donc on sent bien qu'il y a aussi une convergence qui se fait là en termes de propositions. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est quand on dit il y a plus d'inquiétude et il y a plus de violence côté gilets jaunes. Je l'entends sur le court terme et sur ce qui s'est passé, que je ne cautionne pas du tout pour ma part et que je regrette. Néanmoins, il y a une certaine violence aussi du système économique dans lequel on vit aujourd'hui, qui a un impact sur la vie quotidienne des gens, où il y en a qui se sont aussi aujourd'hui virés de leur boulot pour des raisons économiques de délocalisation et qui sont souvent par des entreprises qui sont les plus polluantes. Et il y a aussi une réalité qui est le changement climatique. On l'a pas encore énormément d'effet chez nous, il y en a quand même quelques-uns. On voit les inondations qui ont eu lieu cet été. L'inquiétude des jeunes, elle est très forte là-dessus et Camille le dira mieux que moi.
Un rassemblement que l'on entend plus largement, comme dans cette vidéo diffusée sur Internet.
Quand vous avez quelqu'un qui bosse à 40 km de l'endroit où il habite et qu'il n'y a pas d'infrastructure qui lui permette d'aller avec un train ou avec un transport collectif jusqu'à son travail et que vous lui dites en plus, c'est la double ou la triple peine parce que vous allez payer encore plus cher le carburant. Comment vous voulez que ça marche ? Pendant que des très grandes entreprises qui sont responsables de la majorité de la pollution, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est une centaine d'entreprises oui, qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre, elles sont largement exonérées de taxes dans tous les pays dans lesquels elles exercent leurs activités. C'est incompréhensible.
Celle qui parle immédiatement à beaucoup de gilets jaunes, c'est celle qu'on a portée immédiatement au début, c'est la baisse des taxes sur les produits de première nécessité, les produits bio ou sains, parce que voilà, les produits sains qui ne sont pas forcément certifiés, et les produits à matière recyclée. Parce que voilà, on dit consommer correctement, mais avoir les moyens de consommer correctement. Donc là, il est là le lien en fait, entre le social, le fiscal et l'écologie.
Portons notre regard sur ce sondage. Mathilde Himmer, un mouvement vert qui rejoint des attentes larges de Français, si l'on en croit le sondage BVA, commandé par Cyril Dion, des associations et des ONG, donc Place to Be, on est prêt, il est encore temps. Le mouvement, sur le thème transition écologique, sociale et démocratique, qu'en disent les Français? Alors, rappelez-nous peut-être, donc ce sondage a été réalisé fin janvier, du 23 au 24 janvier dernier, auprès de 1023 Français de 18 ans et plus, de toutes les régions de France, de toutes les catégories sociales. Qu'est-ce qu'il a révélé à vos yeux?
La première chose quand on a demandé à BVA de faire ce sondage, c'était de voir finalement, puisque les médias et le gouvernement semblent opposer deux mouvements, on voulait voir s'il y avait vraiment rien qui nous réunissait par lequel on pourrait commencer. C'est-à-dire de se dire, si tous les Français sont pas d'accord, et c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, tous, surtout, sur la question de la transition écologique. Mais est-ce qu'on peut pas se dire, commençons par des premiers grands pas, des premiers grands actes sur lesquels on est d'accord. Et ensuite, débattons sur ce qui ne fait pas consensus aujourd'hui entre nous. Et donc on a pris des propositions qui faisaient consensus, en tout cas qu'on retrouvait dans les demandes et les revendications des écolos depuis bien longtemps, depuis des années et des années, parce que ça fait quand même des dizaines, cinquantaines d'années que les mouvements écologistes portent des propositions qui sont à peu près les mêmes. Et ce que les gilets jaunes portaient, on voyait bien qu'il y avait des convergences sur certaines propositions. Et donc on a demandé à BVA de regarder ces propositions et de voir si finalement, est-ce qu'au-delà des gilets jaunes et des écolos, les citoyens soutenaient massivement ou pas ces propositions, quelles étaient leurs positions. Et ce que ça a révélé, c'est que oui, il y a des propositions sur lesquelles gilets jaunes, écolos et massivement citoyens se rejoignent et sur lesquelles on pourrait commencer et qui ne sont pas des petits pas. C'est-à-dire que des propositions qui auraient pu sembler radicales à une certaine époque semblent aujourd'hui de bon sens. Pour la majorité des citoyens, quand je dis majorité, c'est quand même plus de 80% pour 4 de ces propositions, ce qui n'est pas anodin. Aujourd'hui.
Donc ce qui revient en priorité, dans les priorités vraiment les attentes des Français, donc l'action sociale et la protection de l'environnement en 1, en 2 la santé, en 3 l'amélioration du niveau de vie, et face au réchauffement climatique et à l'inégalité des richesses, donc il y a ces opinions et ces convergences, on peut dire, c'est ça?
Ce qu'on voit, c'est que si on n'oppose pas les deux, mais qu'on conditionne l'un à l'autre, les Français sont d'accord. C'est-à-dire qu'il y a plus de 65% des Français qui disent qu'il faut que le réchauffement climatique soit la priorité du gouvernement, mais que ça n'est possible qu'à la condition qu'on organise une répartition équitable des richesses entre les citoyens.
Et ça a été une surprise pour vous ou pas?
On s'attendait à ce qu'il y ait convergence, pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on savait qu'entre Gilets jaunes et écolos, il y avait une convergence assez forte, qu'il y ait un plébiscite, entre guillemets, d'autant de citoyens. Non, ça, on s'y attendait pas, ça a été une surprise. Et on en est plutôt heureux, parce qu'on se dit finalement, si c'est une surprise pour nous, ça l'est peut-être aussi pour le gouvernement, qui peut du coup s'en saisir pour mettre en place ces actions-là, qui sont pas anodine, enfin, on y reviendra peut-être sur le détail, mais qui permettent de faire des grands pas en avant.
Et alors on peut préciser à Mathilde Limer qu'il y a 5 propositions qui suscitent une très forte adhésion. Je commence à la première, hein. Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits alimentaires de première nécessité et les produits recyclés ou d'occasion. 88% des Français sont d'accord, 7% sont contre. Et donc les autres propositions sont très éclairantes aussi, vous pouvez peut-être nous les détailler.
Les autres propositions, c'est la première, qu'il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui polluent le plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus démunis et leur permettre de participer à la transition écologique. Il y a 83% des Français qui sont d'accord et 49% qui sont tout à fait d'accord. Donc ça, c'est un peu un grand principe, mais ce que ça veut dire derrière en creux, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont prêts à aller plus loin sur les questions écologiques, à condition que ce soit juste socialement. Et on le voit sur la question de la taxe carbone. Taxer l'essence, pourquoi pas, à condition que le kérosène le soit aussi. Donc là, il y a vraiment une question de justice sociale, de justice fiscale qui est là, c'est-à-dire que les Français, notamment les plus démunis, n'ont pas envie d'être les dindons de la farce, entre guillemets, et de se faire avoir dans cette transition écologique, ce qui est tout à fait naturel, ce qui est le rôle du politique, d'organiser cette transition de manière juste.
Et des Français qui souhaitent aussi qu'on leur donne les moyens, justement, de participer eux-mêmes à cette transition écologique en leur garantissant, pour une majorité, l'accès à des lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien ou la création des lignes.
Tout à fait. Et la quatrième mesure, c'est de dégager les financements pour engager la rénovation thermique des bâtiments les plus mal isolés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les plus démunis ne sont pas en moyen de faire la rénovation thermique de leur poche et du coup dépensent énormément d'argent chaque mois dans leur consommation d'énergie, alors qu'une rénovation thermique permettrait de limiter l'argent dépensé par ces personnes-là et en même temps d'amoindrir l'impact environnemental de ces passoires énergétiques. Or aujourd'hui, si l'ambition est affichée par le gouvernement, les actes et surtout les financements de ce que disent un grand nombre d'ONG et la majorité des ONG ne sont pas alignés avec ces ambitions-là. Donc la demande, elle est aussi là, d'être en cohérence entre les paroles et les ambitions et les actes de l'autre côté.
Et dernière proposition, donc, c'est en lien avec les écarts de salaire, justement, c'est plafonner les écarts de salaire au sein d'une même entreprise ou institution de 1 à 12. Camille, une réaction.
Ce qui est marrant, en tout cas pour les deux premières propositions, c'est que on avait trouvé que c'était pas des propositions assez radicales, parce que ce qu'elles proposaient, c'était, on trouvait selon nous des solutions de surface, c'est-à-dire qu'on offrait un meilleur pouvoir d'achat aux gens, mais sans remettre en question ce qui est pour nous au fondement du problème, c'est-à-dire le système et les structures de production générale dans une société ultra-libérale qui produit beaucoup trop dans un monde où les ressources sont finies. Et la jeunesse l'apporte, ce message. En tout cas, la jeunesse en Ile-de-France, dans notre mobilisation, on tient à amener ce message qui est celui, d'une part, d'un refus d'un système capitaliste qui cherche toujours le profit et l'enrichissement et la production toujours renouvelée et toujours accélérée et augmentée. Et ouais. D'autre part, la décroissance, c'est-à-dire un mode de vie soutenable qui serait de vivre mieux avec moins.
Voilà. C'est cette question de changement de société, Mathilde Limer, qui est aussi au cœur du sondage, hein, puisque les Français ont été questionnés par ce sondage BVA, donc, sur la question de la démocratie participative. Et là, on sent que c'est moins net, les avis sont plus partagés, même si on perçoit une séduction, hein, dans la possibilité de faire évoluer le système de représentation politique et certainement aussi ce concept d'une société autre, et y compris sur le plan économique. Donc on se retrouve avec 59% de Français qui sont pour instaurer un référendum d'initiative citoyenne. 58% souhaitent voir instaurer une assemblée citoyenne tirée au sort pour proposer des évolutions de notre constitution, hein, qui viserait à garantir justice sociale et justice climatique. Et puis sur les modalités d'action, c'est là où on sent qu'il y a un peu de plus de frilosité, hein. 44% prônent un changement radical pour faire face aux défis sociaux et environnementaux et 41% une politique à petits pas.
C'est ce chiffre-là de 44% et 41% qui est très intéressant. Et quand on a regardé les résultats avec BVA, on a passé beaucoup de temps à regarder ces deux chiffres parce que il y a une augmentation très forte de ceux qui répondent qu'ils sont prêts à marquer une rupture totale pour prendre en compte l'ampleur des enjeux à relever. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de Français qui sont passés de la logique des petits pas à la logique de la rupture totale. Néanmoins, quand on regarde les résultats aux propositions qu'on a évoquées tout à l'heure, il n'y a aucune différence de soutien. C'est-à-dire que les Français qui veulent aller à petits pas ou les Français qui veulent une rupture totale votent de la même manière sur chacune des propositions qu'on a listées. Ce qui veut dire que c'est simplement une manière de se percevoir soi-même. et que ceux qui ont envie d'y aller par petits pas n'ont aucune envie qu'on leur dise « vous êtes des radicaux ». Pour autant, ils sont capables de soutenir des propositions qui, elles, sont radicales.
Est-ce qu'on perçoit des différences d'âge, peut-être, des différences de catégorie sociale sur ces questions-là?
Alors, on voit des différences d'âge assez fortes, notamment sur les questions de démocratie, si je ne me trompe pas. On voit que les jeunes ont une envie de se faire entendre et de mettre à jour notre démocratie, de la rendre plus directe, de manière beaucoup plus profonde que nos aînés. Finalement, les jeunes sont peut-être la partie de la population qui est en abstentionniste de manière la plus forte dans la société. Et pour autant, elle a envie de se faire entendre, mais différemment, peut-être parce qu'il y a une autre culture, et le numérique a émergé, et que notre démocratie n'a pas su se mettre à jour. Et là, il y a une demande très forte des jeunes et des citoyens en général de se dire comment est-ce qu'on peut mettre à jour notre logiciel démocratique pour éviter demain d'avoir des gilets jaunes qui pendant 18 semaines sont dans la rue pour demander plus de pouvoir d'achat, ou des écolos qui en deviennent à attaquer leur propre État en justice pour se faire entendre. Ce dont je suis sûre, c'est que c'est eux qui ont les clés de la création d'un imaginaire qui donne envie. C'est-à-dire que on n'a que croissance ou décroissance. Décroissance aujourd'hui est un mot qui fait peur à la majorité des citoyens parce que c'est contre quelque chose qu'on a vendu comme le progrès pendant des années. Néanmoins, la décroissance peut être joyeuse, ça j'en suis persuadée. Après, c'est quel mot, quel vocable, quel imaginaire et avec qu'est-ce que veut dire ce mieux plutôt que ce plus. Ça, je pense que ça reste à construire et que c'est un des gros chantiers qu'on a devant nous. Et sans mettre la pression à Camille, je pense que c'est vraiment un chantier de votre génération. Comme l'a rappelé Camille, on est dans un système démocratique qui est aujourd'hui vacillant parce qu'on ne le met pas à jour pour des raisons politiques, politiciennes. Et il serait temps peut-être que la politique reprenne toute sa noblesse, se remette à une hauteur où on met à jour l'institution. Ça ne veut pas dire forcément passer du jour au lendemain d'une démocratie représentative à une démocratie directe, mais peut-être une alliance des deux. Et c'est aussi pour ça que le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, a autant de soutien dans la population, ou le format qu'on a proposé là dans le sondage à 58%, mais dans d'autres sondages où c'est d'autres formats de RIC, on atteint des scores de 80%. Moi, je crois beaucoup en cette hybridation, et plus le gouvernement et plus l'État attend la mise à jour de nos institutions, plus on risque d'aller vers des tendances plus radicales, où finalement la démocratie représentative risque d'être jetée. Moi, ça me fait très peur, parce que si elle est jetée, je me demande quel système on aura à la place.
Mathilde Limer, dernier mot.
Moi, je fais partie de ceux qui votent, mais toujours en me posant la question de... J'ai toujours un doute de pourquoi je vote, et avec toujours cette envie de voter blanc, mais comme le vote blanc n'est pas reconnu, je ne le fais pas. Et je pense que si le vote blanc était reconnu aujourd'hui en France, on aurait des résultats très différents. De la même manière, si on avait un vote à jugement majoritaire, qui sont des systèmes qui permettent d'avoir une notation et donc des nuances beaucoup plus fines plutôt qu'un truc noir-blanc qu'on a avec le vote. Et qu'en fait, il suffit pas grand-chose pour mettre à jour notre démocratie, faire en sorte que ce soit plus fluide et que ça marche mieux. Faut-il que l'État et notre gouvernement aient envie de se hisser à un niveau de politique dont il est capable? Je pense que ce gouvernement en est capable, et ce qu'il le fera, la suite des événements nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a rien qui nous convient, nous, citoyens, sommes prêts, et avec une diversité de citoyens, c'est-à-dire à la fois des gilets jaunes, à la fois des écolos comme Cyril Dion ou Laurence Tubiana, à la fois des experts du monde de l'innovation démocratique comme Loïc Blondiaux, Julien Talpin et d'autres, sont prêts à mettre en place une assemblée de citoyens tirés au sort qui ferait des propositions alliant transition écologique et sociale qu'on inviterait le gouvernement à mettre au référendum. En tout cas, pour montrer que oui, il peut y avoir des propositions issues du débat et remettre la délibération au cœur de notre système politique, parce que c'est ça, le fondement de la démocratie. On n'est pas forcément d'accord au début, mais l'idée, c'est d'arriver à des consensus qui nous font avancer. On a perdu cette délibération aujourd'hui, et c'est ce que je trouve très beau à la fois dans le mouvement des Gilets jaunes, à la fois dans le mouvement écolo aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas d'accord, ni sur les modes d'action, ni sur les demandes forcément, mais qu'il y a une réappropriation du politique et de la délibération, et que ça, faut le poursuivre, faut pas que ce soit une parenthèse dans le temps, que ce soit la parenthèse du grand débat ou la parenthèse d'un quinquennat.
Merci à toutes les deux.
Merci.
Et c'est la fin de notre émission. Toutes les informations, bibliographies, liens, revues de web environnement, les plus, les moins de la semaine, les images des animaux dont nous avons parlé avec François Moutou sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. téléchargement, réécoute à loisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur notre page Facebook. Samedi prochain, émission exceptionnelle avec la présence de l'avocat Pablo Fajardo, avec les journalistes aussi Simon Roger du Monde et Sophie Tardy-Joubert. Nous parlerons de l'affaire Texaco-Chevron et de la catastrophe environnementale, toujours d'actualité en Équateur. Bonne soirée à tous et puis restez bien sûr à l'écoute de France Culture. Place tout de suite aux fictions.